Je m'appelle Brice, je suis un garçon qui aime bien chanter des chansons. Je ne fais jamais de caprice. J'aime les pâtes, les frites et les saucisses. Mon doudou, moi et mes parents, nous voyageons depuis longtemps. Pas sur le dos d'un éléphant, mais à vélo, évidemment.
Salut les copains, c'est Pause Vélo. On est aujourd'hui avec Florian.
Bienvenue. Et on est avec aussi Driss déjà.
Bonjour.
Tu as quel âge, Driss ?
8 ans.
Et tu vas nous raconter ton voyage avec tes parents qui sont également là.
Bonjour.
Bérangère,
la maman de Driss.
Et Mathias.
Bienvenue à vous tous.
Merci.
Une belle petite famille qui va nous raconter son voyage à vélo, un voyage particulier. Vous êtes partis autour du monde, c'est ça ?
C'est ça, oui. On est partis en 2014. Driss avait 2 ans et demi. Et on est parti pendant 1 an en vélo. On est parti de chez nous, de la région parisienne à Montreuil, jusque on a fini notre voyage à vélo dans l'Ain, près de Nantua. Voilà, pendant 1 an.
D'accord. Vous êtes passé par Morges, ville qu'on connaît bien, c'est ça ?
Oui.
Vous avez rencontré Henri Dess.
On a rencontré un fameux chanteur suisse, tout à fait, Henri Dess.
Notre retour s'est fait dans l'Ain. Et du coup, on a fait un crochet par Morges pour aller rencontrer Henri Dess.
Voilà.
D'accord. Oui, alors pourquoi Henri Dess ? Parce qu'en fait, vous êtes parti à la recherche de comptines, de chansons à travers le monde, pour enfants, mais pas que. Puis vous avez enregistré des sons d'ambiance.
Oui, je suis ingénieur du son. Et donc, le but du jeu, c'était de faire une petite série radiophonique. Donc, il y a 52 épisodes, on est parti 1 an. C'est une série radio qui est réalisée en son binaural. Donc, il est conseillé de l'écouter. Ça peut s'écouter normalement, mais il est conseillé de l'écouter au casque pour avoir un rendu beaucoup plus réaliste. Le fil rouge, c'était d'aller enregistrer des chansons que chantent les gens pour les enfants. Voilà, comme ça, dans la rue, au gré des rencontres, quoi. Donc chaque épisode se finit par toujours un petit peu de musique.
On peut expliquer à nos auditeurs qu'est-ce que c'est le son binaural ?
Le but, c'est de rendre quelque chose de très réaliste. Le but, c'est que l'auditeur ait vraiment l'impression d'entendre ce qu'il entend dans la vie réelle. Parce que sur de la stéréo classique, sur du son classique, quand on écoute au casque, ça se passe dans la tête. Le son qu'on entend est dans la tête. Mm-hmm. Et puis, on a un rendu gauche-droite, mais uniquement gauche-droite.
Mm-hmm.
Alors que dans la vie réelle, on entend ce qui se passe derrière, devant, oui. En haut, en bas. Nos oreilles sont capables de le discerner. Et ça se passe pas dans notre tête, quoi. On est dans un environnement sonore où il se passe des choses partout. Je trouve ça très intéressant pour un carnet de voyage, parce que justement, ça permet d'emmener les auditeurs avec nous en voyage, quoi.
Et donc, techniquement, comment ça se fait, cette prise de son ?
C'est un ingénieur du son de Radio France, en fait, qui m'a guidé, avec qui je travaille en temps normal. Et j'ai un petit peu adapté sa méthode. Le principe, en fait, c'est de mettre des micros dans mes oreilles pour vraiment simuler ce qu'entendent mes tympans, quoi. Ça me permettait de restituer toute l'image arrière. Et en parallèle, j'avais 2 micros que je tenais à la main qui me permettaient de prendre l'image avant, voilà, sur tout ce qui se passait devant. Et après, au mixage, je spatialisais artificiellement ces micros avant, vers l'avant et vers le bas. Donc il fallait que je l'éloigne devant et que je le rabaisse pour pas avoir l'impression que ça se passait au-dessus dans mon
son. Ce que je propose, c'est qu'on écoute déjà un premier son que vous avez enregistré. Donc on conseille aux auditeurs de l'écouter avec le casque.
Voilà.
C'est ça. Là, c'est le montage de la tente en Suède. On en reparle après.
Ok.
Oui, bonjour monsieur.
Qu'est-ce que vous faites ?
La vie est un éternel recommencement, donc pour la 95e fois, j'installe les matelas pour la nuit avec les duvets. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Une fois que la tente a été montée, on met une couverture de survie pour s'isoler un peu plus du froid. Pour Driss, on rajoute une petite couverture de polaire, enfin en polaire, et son matelas gonflable. Et nous, on a nos matelas gonflables. Ensuite, duvet. Encore et toujours. Et vous savez quoi ? Demain, ce sera la même chose.
On a donc écouté un extrait de votre voyage, ça c'était en Suède, c'est ça ?
200 km de Stockholm, à quelques, voilà, on était à quelques jours de notre arrivée de Stockholm.
Voilà, on était vraiment là dans la race campagne en Suède. Il n'y a pas beaucoup de villes de toute façon, hein, c'est beaucoup de nature.
Et Driss, tu te souviens quand même du moment où vous montiez la tente ?
Quand on gonflait les matelas et qu'on faisait des oreillers avec ce qu'on allait mettre le lendemain et qu'on dormait avec notre capuche pour ne rien entendre et ne rien voir.
Vous étiez tout le temps en camping sauvage ?
Des fois on était en camping ou des fois on était dans des maisons.
Au gré des rencontres, et en Asie par contre, on a lâché la tente.
Ah oui.
Pour s'alléger et parce qu'on arrivait en Asie du Sud-Est en fin de période de mousson, mais il faisait encore très très chaud, très très humide. Et en fait, on s'est dit que de toute façon, dans le pire des cas, on trouverait des espèces de guest house, comme ils disent là-bas. Et d'ailleurs, on n'a eu aucun problème, on a toujours trouvé de quoi dormir comme ça. On n'a pas du tout campé en Asie.
Vous aviez un sacré équipage au niveau de votre matériel vélo pour transporter de riz aussi.
Oui, oui.
Oui, on avait effectivement tous les deux, Mathias et moi, un vélo droit. On avait une remorque pour Driss et chacun 5 sacoches. Ouais, c'est ça, 5 sacoches. On a fait donc trois grosses parties. On a fait donc l'Europe du Nord, 3000 km entre Montreuil et Stockholm. Et donc cette partie-là, on l'a faite en plus avec une copine en roller qui nous a suivis du début à la fin en roller.
Waouh!
Ouais. On peut l'applaudir.
Ouais, effectivement.
et après Stockholm, on s'est effectivement allégé de quelques affaires puisqu'on partait en Asie. Il y avait certaines choses dont on n'aurait plus besoin.
Et puis on s'est aussi rendu compte qu'on était parti avec trop.
Et on s'est aussi rendu compte qu'on était parti avec beaucoup trop.
Quelles sont les choses à ne pas prendre pour les gens?
Alors,
qui
une paire de rollers pour Driss, c'était beaucoup complètement inutile.
D'accord.
On n'a jamais fait Driss.
Si, il en a fait une fois, je crois, à Malmö. Hein. Il me semble que tu as fait une fois du roller. On avait pris une paire de rollers pour qu'il puisse s'amuser et c'était complètement inutile et lourd.
Pour nous, le roller, c'est quelque chose de très important. Ouais. En fait, on s'est connus en faisant du roller. Et
ah ouais, d'accord.
Moi, personnellement, je fais du roller depuis que j'ai 7 ans.
Moi aussi,
loin.
Ouais.
Et notre ami qui nous a accompagnés en roller jusqu'à Stockholm, c'est une vraie amie par le roller depuis toujours. Non, ce qui est sûr, c'est qu'il faut, en tout cas, ça sert à rien de prévoir 3 pantalons, je sais pas quoi. Enfin, en fait, on est toujours habillé pareil. Quoi.
Oui.
Il y a vraiment, mais ça sert à rien du tout de. Moi, je lavais mes caleçons en prenant ma douche.
Oui, on se lave au fur et à mesure.
Voilà, moi, en tout cas, ce que je retiens, c'est surtout en termes de vêtements.
Oui, en termes de vêtements, ça sert à rien d'en prendre trop. Et même
de quoi
même
se protéger
pour
de la pluie, de quoi avoir chaud.
C'est une école de la sobriété heureuse.
Oui, exactement.
Il y a des choses qui vous ont manqué ?
Non.
Vous avez regretté
non,
pas
non, et puis même, ça permet en rentrant de se rendre compte que ça ne sert à rien des armoires pleines.
Oui.
Et on fait un gros vide quand on rentre aussi. Et on se dit, mais pourquoi j'ai autant de pantalons? Pourquoi j'ai autant de t-shirts? Ça ne sert à rien.
C'est le syndrome typique du voyageur long terme, ça,
oui,
je crois, de
ça.
Rentrer chez lui, de voir toutes ses affaires et de se dire, mais pourquoi j'ai
mais
autant
pourquoi,
de choses?
Voilà. Et de tout
vécu,
vider, et de se sentir bien, puis bien mieux.
Exactement, oui, tout à fait.
On va passer à la chronique de Séraphin.
Oui.
Séraphin, qui est de la Fédération des usagers de la bicyclette et qui va nous parler des élections municipales et de la place du vélo dans ces élections. On rappelle que les élections ont lieu dans 10 jours. Donc voilà, on va écouter Séraphin.
Excusez-moi, mais vous êtes en train d'uriner sur ma voiture.
Eh ben alors, c'est normal, non ?
Salut la compagnie. Je reviens après une semaine sans pause vélo, mais je n'ai pas posé mon vélo. Après le congrès de la FUB à Bordeaux, j'ai chevauché mon fidèle et désormais célèbre Carlo Verlès à la poursuite d'Ocane. Mais je me suis arrêté à Aix-en-Provence parce qu'un TGV m'attendait. J'ai quand même profité de 2 semaines de voyage pour rencontrer plein d'assauts vélo. Dans des grandes villes comme Toulouse ou des petites comme Castelnaudary, des villes catastrophiques pour le vélo comme Béziers ou exceptionnelles comme... Bon, manque de peau, pour aller de Bordeaux à Aix, on passe pas par Amsterdam. Et même si le sud de la France, c'est pas les Pays-Bas, il faut noter quelque chose. Dans toutes les grandes villes, le combat est gagné. Ça mettra peut-être plus de temps qu'à Rennes et Grenoble, mais la congestion et la pollution, le profil des habitants et leurs demandes rendent l'avènement des vélos inévitable. En plus, dans ces villes, des associations s'étendent petit à petit, aux banlieues et aux périphéries. Dans les plus petites villes, par contre, c'est beaucoup plus compliqué. Les cyclistes sont encore vus comme des bobos ou des types en lycra, qui pour l'une ou l'autre de ces raisons n'ont rien à faire en ville. Il y a un manque assez criant de culture vélo chez les élus et toutes les personnes qui pourraient faire avancer le système vélo. Si seulement on avait une émission de radio qui pouvait leur parler de vélo. Je suis quand même sorti de ce voyage des étoiles plein les yeux. Évidemment, vu les paysages et les villes traversées. Mais surtout, la tête remplie d'échanges riches et de belles idées. Les assos pro vélo, il y en a pour tous les goûts. Pour les jeunes, les retraités, les hommes, les femmes, les militants purs et durs qui veulent crever des pneus des SUV, ou plus simplement apprendre à réparer leur vélo. La FUB, c'est un peu tout ça en même temps. C'est 330 associations partout en France. J'ai été voir des assos qui se battent pour offrir de la mobilité à des personnes éloignées de l'emploi, comme à Castelnaudary, qui portent plainte contre leur commune pour avoir des doubles sens cyclables comme à Perpignan, qui veulent monter des chouettes projets associatifs et culturels comme Arles, qui font le tour des villages du coin des dimanches entiers pour recenser de manière exhaustive les aménagements vélos comme à Aix-en-Provence, qui n'existent même pas encore, mais qui se battent quand même pour guider les cyclotouristes à travers la Camargue et convaincre les élus de faire d'Aigues-Mortes un petit Copenhague. Et j'ai eu l'honneur d'être le troisième cycliste à fréquenter les pistes cyclables Montpellier-Rennes, à profiter de l'absurde mais magnifique voie piéton-vélo du bord de mer à Sète avant qu'elle ne soit envahie par les touristes l'été, de faire un peu d'intermodalité à Toulouse en profitant des quelques attaches vélo de la station de métro. Bref, j'ai fait un chouette voyage. Et pour le prochain, qui est-ce que je rencontrerai? Peut-être toi? Allez, sois pas timide, une assofube te tend les bras.
Merci Séraphin pour ces nouvelles de la politique en France. Et on est toujours avec notre petite famille de voyageurs.
Alors là, on va écouter un deuxième son. C'était au Laos. Dites-nous ce que vous avez enregistré là-bas.
Donc un soir, on s'est retrouvés chez une famille au bord de la route. Enfin, leur maison était vraiment au bord de la route 13 qui longe le Mékong, quoi. Dans le sud du Laos.
D'accord, ouais.
Donc, je pourrais plus dire exactement, mais quelque part entre Vientiane et l'extrême sud. Mm-hmm. Voilà, on a dormi. Donc, elles étaient trois sœurs. Je sais pas, la plus petite devait avoir 3-4 ans. Il y en avait une un peu plus, 12 ans. Et puis, l'aînée devait avoir peut-être 15-16 ans, quoi. Voilà. Et donc, c'est l'aînée qui... Non, c'est pas l'aînée, c'est celle du milieu, si je me souviens bien. Qui, donc, chante une chanson... C'est une chanson laotienne, je pense, très typique. Maintenant, est-ce que c'est une chanson particulièrement pour les enfants? Je sais pas si vous avez bien compris ça, mais c'est une comptine. Enfin, ça avait l'air d'être une chanson vraiment traditionnelle, type comptine, quoi. Après, est-ce que c'est une comptine pour enfants? Je sais pas.
Eh ben, on va se l'écouter tout de suite.
On va se l'écouter, voilà. Vous en jugerez par vous-même.
Padong phong phan on son dok mai sap son sen sa on song kin hom huan som sat thang muan ni sit se li huam sa ma ki pen phi nong dieu ta su เดียวสร้างชีวิตใหม่เมฆมืดผ่านไปสีสดใสเข้ามาแทนที่ดินแดนแห่งนี้สุดที่ลำคาเลือดนักโลบได้ทาแดงทั่วแห่งโหนเสียสละสู่สุนภาพแพร่ไพลีเขตปลดปล่อยนี้จะรักษาศักดิ์ศรีแผ่รัศมีไปในทั่วแดนลาว
Très belle chanson. Comment on fait pour demander aux gens de chanter si on ne parle pas leur langue?
Alors, cette soirée-là en particulier...
On ne parle pas l'anglais.
Ouais. Tu parles anglais toi, Driss?
Je parle en anglais à leurs parents qui leur demande à celui ou à celle qui connaît la chanson de la chanter.
Ah, très bien.
Oui, c'est vrai qu'on a fait ça plusieurs fois. Là, sur cette chanson-là en particulier, les parents étaient assez peu là. On a plutôt passé la soirée avec...
On a vu la mère un petit peu.
Oui, un petit peu la mère. Mm-hmm. On a plutôt passé la soirée avec les trois filles qui étaient vraiment adorables et qui ne parlaient pas un mot d'anglais. Alors, la plus grande, qui devait avoir 16 ans, avait dû apprendre deux mots et demi en anglais. Et elle avait un dictionnaire d'anglais. Et on a passé la soirée avec elle à essayer de parler avec ce dictionnaire-là sur les jambes, donc entre le laotien et l'anglais. Donc ça a été une superbe soirée, mais c'est vrai que la communication n'était pas forcément verbale, en tout cas, parce que c'était compliqué au niveau des mots, quoi.
Driss, tu nous disais que tu te souvenais de cette soirée. Tu te souviens de quoi tu te souviens quand cette personne a chanté?
Mais en fait, je me suis trompée de soirée.
Et de quelle soirée tu te souviens?
d'une autre en Suède où cette fois il y avait aussi trois sœurs, mais les parents ils étaient là et on a, il y en avait une qui avait à peu près mon âge, à l'âge que j'avais, donc elle avait à peu près 3 ans. Il y en avait une autre qui avait mon âge maintenant, vers 8 ans, et il y en avait une autre plus grande, 10, 11 ans. Voilà.
Et toi, tu as chanté des chansons aussi pour les familles qui t'ont accueilli en voyage ?
Oui.
Oui, qu'est-ce que tu as chanté comme chanson ?
Je m'appelle la chanson de Zaris.
Mm-hmm.
Dans ta remorque, en
et
tout
il,
cas.
Il l'a chanté pour nous et pour
oui,
lui. Pas pour les gens, c'était plutôt la chanson.
Ouais, on avait aménagé dans sa remorque. Sa remorque, c'était un petit peu sa chambre pendant un an.
Mm-hmm.
Et donc, il avait tous ses livres. Et on avait aussi mis un petit lecteur MP3 avec une petite enceinte dans laquelle, avec laquelle il écoutait soit des histoires, soit tout le répertoire d'Henri Dess.
C'était pas trop long, le temps, dans la remorque ? Tu t'ennuyais pas ? Non ?
Non, je dormais quand.
Ah, tu dormais ?
Et bien nous, on a aussi un autre voyageur qui nous envoie ses cartes postales, c'est Okan. Il relie Sion à Tokyo à vélo, dans une idée de faire de la prévention contre les AVC. Et on va écouter tout de suite sa carte postale, c'est à toi Okan.
Hello, pause vélo. J'ai quitté Pontiane et je me dirige gentiment vers Moire, c'est plus au nord. Je vais faire 50 km. Et sur la route, il y a un homme qui me dit « Va pas à Moire, va à Melaka ». Et sur la route, c'était pas le seul à me dire ça. Il m'a dit, il y a un autre gars qui m'a fait la même chose, la même réflexion, « Va à Melaka, c'est mieux ». Du coup, je me dis « Ben mince quoi, ma journée de 50 km, elle se transforme en une journée de 100 kills ». Et d'ailleurs, ça va être la première fois que je passe la barre des 3 chiffres en une journée. Je me dépêche et j'arrive presque à la nuit tombée. Je trouve vite fait une auberge de jeunesse que je paye 2 francs la nuit. Ça va être mon hébergement le moins cher de tout le voyage, hormis camping bien sûr. Si je voulais vraiment être en auberge de jeunesse, c'est parce que je voulais pas être seul, tu vois. On est tous sortis ensemble de l'auberge, on allait manger. Je me suis pris un pire hamburger, des frites, et après je me suis pris encore un plat de spaghetti. Oh mon dieu, et un dessert, ah oui, et un dessert. Ça c'est la beauté du vélo, tu peux manger comme un fou. Et franchement, c'était mon meilleur repas de réveillon pour moi. Je pouvais pas rêver mieux, même tu m'aurais donné une dinde, j'aurais dit non, spaghetti, hamburger. Après on est allé se balader un peu dans la ville, avant d'aller à la messe de minuit. C'était vraiment cool, on chantait en anglais, en fait c'était devenu un karaoké réveillon, avec les écrans dans l'église pour que tout le monde puisse participer. Moi je suis pas chrétien, mais l'ambiance était vraiment cool. Voilà, après je suis resté 3 jours ici à Melaka et c'est vraiment la ville où je me suis senti le mieux en Malaisie. Il y a une énergie, c'est beau, les gens sont cool. Projet AVCLO recommande Melaka. Melaka ou Malaka, tu peux le dire de deux manières. Après je reprends la route et je me rends compte que l'Asie, ça va être vachement, mais vachement plus difficile que prévu. J'ai un peu zappé le facteur chaleur. Et il m'a échappé dans mes calculs et ça va être vraiment compliqué. Je roule toute la journée sous un soleil de plomb quoi. Et pour pas gaspiller un budget de fou dans la crème solaire, je roule tout habillé. Voilà, j'irai cuire au soleil ma foi. À défaut de choper la grippe, ce sera peut-être l'insolation. Allez, je quitte la ville et je me dirige vers Kuala Lumpur. Et ça, ce sera pour la semaine prochaine, pause vélo. Ciao, ciao.
Merci Okan pour ce joli parcours, encore une fois. Alors, on revient vers vous, la petite famille. Vous appelez au coin de la roue.
Y a l'idée que dans le voyage à vélo, c'est accessible en fait. On voyage tout de suite. Il suffit de prendre son vélo et on part en voyage. Donc on part en voyage dès le coin de la rue. Et le voyage il commence. Il n'y a pas besoin d'aller jusqu'en Asie. Alors nous on a eu la chance d'avoir le temps et on avait envie de faire ce grand voyage là. Mais le plaisir du voyage à vélo il commence tout de suite. Donc c'était un jeu de mots entre effectivement la roue du vélo, la roue du roller, parce qu'on a fait aussi pas mal de voyages en roller. On a traversé la Suisse l'année dernière en roller et du coup notre blog récapitule un petit peu tous nos voyages, donc c'était pour lier toutes ces idées là du voyage à vélo, du voyage en roller et du voyage au coin de la rue.
On va peut-être le rappeler plus tard, mais on va déjà dire comment on peut retrouver votre blog.
Et bien du coup sur aucoindelaroue.com.
Voilà, aucoindelaroue.com.
De la roue.
Tout simplement.
Parfait. Edris avait quelque chose à dire sur aucoindelaroue.
Bah aussi c'est un peu au coin du monde et comme une roue c'est rond et ben on s'est pris que la roue en fait c'était le monde et au coin du monde parce que nous on était au coin du monde de
voilà c'est vrai qu'effectivement il n'y a pas de coin au monde, il n'y a pas de coin à une roue donc les voyages sont on peut faire des voyages tout le temps.
Voilà.
Ça ne s'arrête jamais. C'est un cycle. Voilà. Très bien. Alors, on va écouter un troisième son. Averse tropicale, je vois. Le fichier s'appelle Averse tropicale.
Donc, voilà. Vous étiez pendant la saison des pluies.
Ça se passe un soir au Laos. Mm-hmm. En fin de période de mousson.
D'accord.
On va écouter ça.
Dans les montagnes de Banaïm, il y a quelques semaines.
Après, il va faire... Et après, il y a le tonnerre.
En ce mois d'octobre, sous les tropiques asiatiques, après des journées très lourdes, nous subissons parfois le soir des orages très violents, magnifiques et puissants.
Cette nuit, nous dormons à Champasak, un village coquet bâti le long d'une petite route parallèle au Mekong.
Ici, le fleuve est large de plusieurs centaines de mètres. Les petites maisons sont les pieds dans l'eau, l'ambiance est très calme.
Mais ce soir, c'est assez sonore. Pendant les grosses averses qui rafraîchissent un peu l'atmosphère, les insectes se font entendre.
Eh ben, il pleut bien, hein.
Bah oui, il pleut. Je m'y attendais pas. Et puis ça sent bon. Ça sent l'humidité de la pluie et le parfum des fleurs. C'est très bon. Et des fois, ces grillons, ils se pèsent la nuit ou...
Je crois surtout qu'on va entendre ça toute la nuit.
On a entendu les orages, la pluie, c'était la mousson, vous disiez.
La fin de la mousson, ouais.
D'accord. Les orages, ça t'a impressionné, Driss, ou non?
Oui.
Oui, t'as eu peur?
Je m'en souviens plus.
Tu t'en souviens plus?
Enfin, je pense que oui, mais... non, mais je sais pas, mais...
On a entendu un son continu qui paraît électronique, mais en fait, ce sont des sauterelles ou des grillons.
Hein oui. Oui, c'est ça, ouais, c'était des insectes, c'est assez impressionnant
oui,
là-bas.
Qui font un bruit monstre.
Il y a aussi un autre épisode que Mathias a réalisé dans la jungle au Laos et où il y a des sons d'insectes qui sont vraiment très très impressionnants. Quoi. C'est un bruit qu'on n'a pas du tout l'habitude d'entendre en Europe en tout cas, parce que même les grillons sont plutôt chantants chez nous. Là-bas, ils sont.
Oui, c'est strident. Ouais.
C'était assez impressionnant.
Et toi, tu nous disais, Driss, pendant qu'on écoutait la pluie, que tu avais envie de repartir à vélo. Donc finalement, c'est assez facile de voyager à vélo avec un enfant.
Oui.
Ouais, toi, ça t'a plu en tout cas.
Oui.
Chaque année maintenant, l'été, on part en vélo avec lui. Donc t'as fait quoi l'été dernier?
On est allé à Bologna. Enfin, on est allé à côté de Nantua, juste en vélo.
Et l'été d'avant?
On était allé en Norvège en passant par le Danemark en vélo et on a retrouvé encore cette copine en roller et l'été encore d'avant on était allé en Suède.
Et alors tu aimerais aller où maintenant?
En Normandie et ensuite aller à près de la mer vers en Bretagne.
Très bien. Encore la pluie, quoi.
Oui, finalement, t'aimes bien la pluie, toi.
Non, mais l'été, il fait beau là-bas.
Au Laos, sous la pluie, comme ça, vous rouliez ou non, vous arrêtez
non.
Quelques jours
Quand il pleuvait comme ça, on... Après, c'était vraiment des orages très ponctuels. Là, c'est vraiment... c'est des orages énormes, mais ça dure... Je sais pas, ça dure 20 minutes, après c'est terminé. Quoi.
J'ai pas le souvenir que ça nous ait bloqué en journée. Ce qui nous a bloqué au Laos en journée, c'était la chaleur. Ouais. On a dû arrêter de pédaler en journée. En fait, on se levait très tôt et on pédalait de 7h à...
6h même.
Ah ouais, 6h à 10h max, parce qu'entre 10h et 15h, c'était impossible de rouler. Moi, j'ai eu des moments où, sous le casque, j'avais l'impression que mon cerveau bouillonnait. Il trempait dans un espèce de bouillon tellement j'avais chaud. Donc, on roulait pas en journée les tout premiers jours du Laos parce qu'on est arrivé donc fin septembre et il faisait encore très 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 chaud et après ça s'est un peu calmé, on est descendu au Cambodge, la température a baissé mais la pluie, je me souviens pas que ça nous ait gêné, c'était le soir,
il y avait des gros orages surtout en fin de journée,
ouais c'est ça. Pour revenir sur le voyage à vélo avec des enfants, c'est vrai que ça peut faire peur au départ et en fait tout est assez facile avec les enfants. Et même nous, on est parti quand Driss avait 2 ans et demi, il a raté sa première année de maternelle. On voulait pas perturber son cycle scolaire, donc on est parti au moment où à la fin de son assistante maternelle, fin du temps qu'il avait chez son assistante maternelle et avant son entrée en maternelle. Mais aujourd'hui, je me rends compte qu'un enfant, plus il est petit, enfin ça aurait pu être avant, on aurait pu partir avant ces 2 ans et demi, parce que plus ils sont petits, moins ils ont besoin de choses. Ils ont juste besoin de leurs parents, de manger et de dormir, ce qui est quand même quelque chose que vous pouvez leur offrir n'importe où dans le monde et même sur un vélo. Alors que plus on attend, plus ça peut poser des questions, parce qu'il y a le côté
aussi,
ça se passe bien aussi, mais il y a le côté de sociabilisation où ils sont en deux mondes et on l'a vu, mais en tout cas c'est assez facile. Et maintenant que Driss pédale, puisqu'il pédale depuis 4 ans maintenant, on part chaque année pendant un mois et il pédale, donc il a effectivement, comme il l'a dit, il a traversé le Danemark en pédalant tout seul sur son vélo.
Quel champion.
La Norvège, un peu tirée par maman, mais la plupart du temps pédaler sur son vélo aussi. Il a traversé aussi la France et tout ça, donc voilà, il pédale maintenant ouais, assez facilement et très volontairement. On l'a pas encore dégoûté du voyage à vélo.
Ah non, c'est même lui qui demande.
Oui, ouais. Ouais, on voit qu'effectivement ça a eu l'air de lui plaire.
Et puis
ouais,
quand ils sont tout petits, en plus ils ont aucune expérience de la vie, enfin peu d'expérience de la vie. Ils ont pas d'habitude en fait, donc ils s'adaptent 1000 fois mieux que nous à tout, quoi.
Ah ouais, c'est marrant.
Au climat, au je sais pas. C'est vraiment très facile. Et les difficultés qu'on rencontre, parce qu'on va pas non plus. Tout n'est pas rose, il y a des jours où c'est pas facile, quoi. Mais en fait, ce serait la même chose si on était sédentaire. C'est exactement les mêmes difficultés que celles qu'on trouve en restant chez nous.
Et maintenant, on va passer à l'agenda avec Gwendal pour le mois de mars.
Bonjour à tous, on va commencer très fort. Sachez que le 13 et 14 mars, il y a le Festival du Voyage à Vélo en roue libre à Bruxelles. Vous pourrez y trouver des films et des ciné-débats autour du voyage à vélo, des rencontres et des conférences avec des amateurs de l'aventure, des ateliers super sympas, comme par exemple apprendre à cuisiner sur la route, des expositions photographiques ou encore une buvette et plein d'autres activités. Donc le festival aura lieu à Watermael, Watford. Donc rendez-vous à 20h le vendredi et à partir de 11h le samedi. Ensuite, l'association à bicyclette Tulle organise le 14 mars de 15h à 18h son assemblée générale. Donc c'est une association qui a pour but de promouvoir l'usage du vélo dans la région de Tulle. Allez faire un tour là-bas pour découvrir cette association qui est très active, qui propose des ateliers de réparation, des locations de vélos et encore plein d'autres choses. Donc cela se passera à la salle Asie du Centre culturel et sportif de Tulle. Pour finir, le 14 mars, Alternativa Caen organise une vélorution. Donc j'imagine que pour la plupart d'entre vous, je n'ai plus besoin de vous expliquer le concept de la vélorution. Le concept, c'est de rouler en groupe au travers d'une ville afin de montrer que nous, cyclistes, sommes présents en grand nombre. Ces balades et défilés permettent de nous mettre en avant et d'essayer de faire avancer les choses autour des aménagements urbains qui nous sommes destinés. Cette vélorution partira de la maison du vélo à Caen et commencera à 10h30. Par ailleurs, le vendredi 13 mars, donc la veille de cette vélorution, rendez-vous justement à la maison du vélo pour préparer les banderoles et bénéficier des services de ce tiers-lieu. Donc en effet, la maison du vélo, c'est une association cannaise qui met à disposition ses locaux pour vous aider à réparer vos vélos tout au long de l'année. Donc moi, pour l'avoir fréquenté, je peux vous assurer que si vous êtes cannais, ça vaut vraiment le coup. Allez visiter leur page Facebook, car ils organisent des événements tout au long de l'année, comme des bourses au vélo ou autres. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine.
Et merci Gwendal pour cet agenda. Et on va remercier aussi notre famille de voyageurs.
Merci.
Merci à vous.
Merci, hein. Merci d'être venu.
Et on peut vous retrouver sur votre blog au coin de la roue.
.com.
On va se quitter là.
Et n'oubliez pas les copains, pour sauver l'humanité,
faites du vélo!